Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici pour parler des planètes. Aujourd'hui, nous allons parler de planètes, des nouveaux mondes de l'espace. La détection en masse des exoplanètes change notre regard sur l'espace et sur le système solaire. Quelles sont les différentes techniques pour les découvrir et les observer? L'espace connu aujourd'hui est-il suffisant à l'imaginaire des auteurs ou continueront-ils d'inventer des mondes toujours plus lointains? Voilà de quoi nous allons essayer de parler pendant une heure avec nos invités. Alors, nos invités, je vais vous présenter d'abord Daniel Martinigol, qui est diplômé de l'Université de Dijon sur les littératures de l'imaginaire. Elle s'est ensuite consacrée au métier d'enseignante. Elle a remporté le Grand Prix de l'imaginaire en 2002 avec Les Abîmes d'Outre-mer. Ses derniers livres, pour ce que je sais, sont des anthologies sur les grands auteurs de la littérature française, c'est bien ça, sur 15 extraits de romans Jules Verne et Victor Hugo, La légende d'un siècle. À côté, nous avons donc Philippe Bucher, qui est un dessinateur et coloriste de BD, passionné de science-fiction. Il a débuté comme illustrateur pour diverses entreprises de communication. Et un jour, il a rencontré Jean-David Morvan, je vous parlerai tout de suite après, qu'ils ont collaboré ensemble sur la série Nomade, puis sur Sillage. Il a reçu le Soleil d'Or en 2000 au Festival de Solliès. Grâce à Sillage, il a remporté aussi deux fois le prix Essentiel Jeunesse à Angoulême. À côté, nous avons François Forger, qui est directeur de recherche au laboratoire de météorologie dynamique, le LMD. Il est passionné par la planète Mars. Il a soutenu une thèse de physique sur cette planète. Après avoir obtenu son diplôme, il est devenu chercheur au CNRS. Chercheur CNRS au LMD, pardon, c'est ça. Il étudie les atmosphères planétaires, celles de Mars en particulier, et il est impliqué dans de nombreux programmes et études martiens, notamment la sonde Mars Express et le développement du modèle de climat martien. À côté, nous avons Jean-David Morvan, qui est scénariste de bande dessinée, un auteur prolixe, qui a travaillé ou travaille sur de nombreuses séries, à succès ou sans succès, m'a-t-il dit. Entre autres, Sillage et Navis. Amateur de space opéra et de monde lointain, il a aussi adapté le cycle de Chai en bande dessinée. Et pour finir, en face de moi, nous avons Robert Charles Wilson, qui est fasciné par les univers étranges et exotiques. Il a commencé sa carrière par quelques nouvelles dans The Magazine of Fantasy and Science Fiction et Isaac Asimov's Science Fiction Magazine. Il publie par la suite plusieurs romans, dont Vice Versa, Les Fils du Vent, Le Vaisseau des Voyageurs. C'est Darwinia qui le fait connaître en France. Depuis, plusieurs de ses œuvres ont reçu des récompenses littéraires, dont la plus prestigieuse dans le domaine de l'ASF, le prix Hugo pour son roman Spin en 2006. Depuis, il a publié d'autres choses, et en particulier Vortex, dernier acte chez De Noël. Donc, madame, messieurs, je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, longtemps, l'homme a cru que la Terre était le seul lieu habitable de l'univers. Il a ensuite compris ce qu'étaient les étoiles et les planètes d'abord du système solaire. Il s'est alors levé une nouvelle interrogation. Y a-t-il des planètes autour d'autres étoiles? La SF a commencé à abondamment répondre par l'affirmative. La science, elle, a mis plus de temps avant de détecter réellement d'autres planètes. Les plus grosses d'abord, puis des planètes de taille comparable à la nôtre. Donc d'abord, la première question, c'est comment ont-ils fait? Et ensuite, en quoi cela peut-il changer les textes des auteurs? Donc François Forger, comment est-ce qu'on découvre des exoplanètes et qu'est-ce qu'une exoplanète?
Alors, une exoplanète, bien sûr, c'est une planète autour d'une autre étoile, n'importe laquelle. Et c'est vrai que jusqu'en 1995, on ne savait pas, on ne pouvait pas, on ne parvenait pas à détecter des planètes autour d'autres étoiles. Et la raison, c'est que si on prend juste avec un télescope comme ça, les deux, évidemment, à plusieurs années-lumière, les étoiles sont loin, sont juste à côté. Et puis, surtout, l'éclat de l'étoile est extrêmement brillant. Par exemple, si on essayait de détecter la Terre à côté du Soleil, le Soleil est 1 milliard de fois plus brillant que la Terre à côté. Donc, c'est impossible, quoi. Mais heureusement, ce n'est pas ça qu'on essaie de détecter. Ce qu'on essaie de détecter, quand on essaie de détecter les planètes, c'est le fait que les planètes tournent autour de l'étoile, mais que l'étoile aussi tourne autour du centre de gravité commun, pour ceux qui ont fait un peu de physique. Bref, ça bouge, ça fait bouger les étoiles. Et donc, grâce à cette astuce, on a réussi, donc depuis 1995, puis surtout depuis 2000, à détecter ce petit mouvement en utilisant la spectroscopie, etc. Et peu à peu, on a pu d'abord découvrir les grosses planètes à côté des petites étoiles, parce que les petites étoiles, avec les grosses planètes, les perturbent beaucoup, elles bougent beaucoup. Et puis, par centaines, on a pu découvrir des planètes avec cette méthode-là. Depuis, on a aussi une autre méthode qui est très efficace parce qu'elle permet aussi de mieux comprendre ce qui se passe. C'est lorsque, par chance, ça arrive assez souvent finalement, on voit un système planétaire par la tranche depuis la Terre. À ce moment-là, de temps en temps, il y a une planète qui passe devant l'étoile. Alors, on la voit pas vraiment. Par contre, ce qu'on voit, c'est que l'étoile est un tout petit peu moins brillante pendant le moment où elle passe. Puis hop, un peu comme une éclipse, quoi, mais toute petite. Et à ce moment-là, on arrive non seulement à détecter la planète, mais on peut voir son rayon, sa taille. Et comme avec la méthode de perturbation, on peut à peu près estimer la masse, bah on apprend plein de choses, la masse, l'orbite, où elles sont. Et ce qu'on a découvert donc ces dernières années, c'est qu'il y en a plein. Il y en a plein partout, non seulement des grosses, mais plein de petites. Et on pense maintenant, et ça c'est une révolution, ça fait peu de temps qu'on arrive à, on va dire, extrapoler les dernières découvertes. On est maintenant à peu près convaincu que quasiment toutes les étoiles ont des planètes autour d'elles. Et ça, c'est quand même une révolution parce qu'on n'était pas sûr. On pensait bien qu'il y avait des planètes ailleurs. Mais que vraiment ce soit aussi commun, c'est vraiment une révolution. Et puis en plus, on voit une diversité. Le système solaire n'est pas du tout typique. Il y a toutes sortes de trucs, des étoiles doubles, des grosses planètes qui sont très près de leur étoile, des orbites très excentriques, pas du tout, avec des saisons énormes. Enfin, tout est possible. Et donc finalement, je dirais, la science, pour une fois, dans un débat comme celui-là, je pense que l'astrophysicien va pas être le rabat-joie, au contraire. On va dire, mais non, ça aussi, c'est possible, on voit plein de choses. Voilà.
Alors, comme je le disais en introduction, la science-fiction n'a pas attendu la science pour parler des planètes et d'autres choses. Je pense que, Daniel Martinigol, ça fait très longtemps qu'on parle de planètes et on a imaginé des planètes un peu partout dans l'univers depuis très très longtemps, en science-fiction.
Oui, bien sûr. C'est quelque chose qui était, en ce qui me concerne personnellement en tant que lectrice au départ, un des grands moteurs de mon propre goût et de ma propre passion pour la science-fiction. C'était l'hypothèse qu'il puisse y avoir d'autres planètes quelque part, que des auteurs avaient joué avec ce postulat et plaçaient des civilisations, des cultures tout à fait différentes sur ces mondes. Le jour où je me suis mise à écrire, j'ai tout naturellement eu envie d'imiter ce genre de choses. Donc, comme moi j'écris pour la jeunesse, je précise quand même ce détail qui peut avoir son importance. J'ai essayé de reconstituer dans mes propres livres des choses qui m'avaient plu, justement en tant qu'adolescente, cette porte ouverte, cette fenêtre formidable qui était la science-fiction, pour essayer d'imaginer d'autres mondes. Alors, je ne sais pas, on entrera certainement dans les détails au cours du débat, mais en fait, dans la littérature jeunesse, la construction d'une autre planète est peut-être moins fouillée, moins élaborée que dans un roman pour adultes. On va peut-être entrer beaucoup moins dans les détails du biotope, etc., comme on peut le faire dans un roman pour adultes. Mais moi, j'essaie, dans la mesure du possible, de faire des choses qui puisse être quand même cohérente, quoi. Enfin, que ça puisse fonctionner. Bon, il y en a certaines qui fonctionnent peut-être pas, mais l'essentiel, c'est peut-être au départ de faire rêver le jeune lecteur aussi.
Alors maintenant, une question que j'ai envie de poser à tous les auteurs, donc vous avez déjà en partie répondu, mais je propose à Robert Charles Wilson de commencer à répondre à cette question. Est-ce que les dernières découvertes scientifiques vous servent et vous nourrissent dans vos écrits?
The simple answer is yes. Interestingly, in the early 1960s, the U.S. government commissioned a report from the Rand Corporation. It was called Habitable Planets for Man, which always raised for me the question, what were they exactly planning to do? But this was a completely scientific document. It was a complete listing of the various kinds of stars, what the habitable region around these stars might be, what might constitute a habitable atmosphere, the range of habitable sizes of planets in terms of their gravity, surface gravity, the composition of atmospheres. It was a wonderful resource for science fiction writers for many years. Unfortunately, it was a very obscure volume. It was hard to find. I came across a copy in the 1970s, owned it for years, and really forgot that I had it until the 1990s, when the science fiction writer Robert J. Sawyer came to visit me at my house, and he was looking at my bookshelves, and he suddenly started shouting, "Habitable planets for man! Habitable planets for man!" I'd forgotten I had the book. I assumed it was some sort of political slogan. I just said, you know, right on, habitable planets for man. He offered me $50 for the book. I was willing to sell it until he said that every science fiction writer should own a copy, in which case I decided I would rather have it than him. But I think it demonstrates there's been a scientific interest in this subject for a long time. And it's been extremely obliging of science recently to equip us with such a cornucopia of new planets. It's much appreciated. I think we should all tip our hats to the scientific community. If only they had put these a little closer to home, it would have been even more convenient. The paradox, of course, is that we're looking at planets that we can only dream of reaching and that can't be reached in a human lifetime. That's what makes them so tantalizing. But we live in a wonderful time, and it's a very fertile time for science fiction writers, I believe.
Donc la réponse simple, ce serait oui, tout à fait. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a longtemps, il y avait un rapport gouvernemental établi par le gouvernement américain, qui était un rapport de commission, qui s'appelait « Planète habitable pour l'humanité ». Et bon, c'était un peu étrange. Et en fait, c'était un document scientifique qui faisait un listing complet de toutes les étoiles connues, de la région habitable pour avoir des planètes habitables par l'homme, de ce qui était une définition d'une atmosphère habitable, une gamme de taille nécessaire pour soutenir ce genre de biotope, les composantes gravitationnelles qui étaient plus ou moins vivables et utilisables, la composition de l'atmosphère, etc. Et en fait, c'est une ressource absolument fascinante pour un auteur de science-fiction. Et en fait, c'est un volume assez étrange et pas connu du tout, assez obscur. Je suis tombé sur un exemplaire, j'en avais un dans les années 70, et je me suis complètement oublié que j'avais ça jusqu'à les années 90, où l'auteur de science-fiction, Robert J. Sawyer, qui est venu chez moi, il examinait mes étagères et ma bibliothèque, et là il s'est mis à hurler « Planète habitable pour l'homme ! Planète habitable pour l'homme !» Moi, je sais pas, parce que j'avais complètement oublié l'existence de ce livre, je pensais que c'était un espèce de slogan politique, « Planète habitable pour l'homme !» Et il m'a offert $50 pour acheter cet exemplaire. J'étais prêt à le lui vendre jusqu'à ce qu'il m'explique que tout auteur de science-fiction se devait d'avoir cet exemplaire dans sa bibliothèque. Donc je me suis dit que je préférais l'avoir moi que lui. Mais ça démontrait vraiment l'intérêt de la science pour le sujet déjà à l'époque. Bon, moi, je me demandais un petit peu ce que le gouvernement américain espérait faire avec ça quand même. Mais je trouve très obligeant de la part de la science de nous équiper avec tout un inventaire et de merveilleuses ressources, de tout un inventaire de nouvelles planètes qu'on découvre tous les jours pour faire de la science. Et donc je pense qu'on devrait tous tirer notre chapeau aux scientifiques qui nous équipent avec tout ce merveilleux attirail. Ce serait peut-être un peu plus pratique si les planètes pouvaient être un peu plus proches de la Terre, mais bon, parce que ces planètes-là, ça nous fait rêver. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles ça nous fait tellement rêver, c'est qu'on ne peut pas rêver de les atteindre avec les moyens techniques actuels dans une durée normale pour une vie entière ne suffirait pas à atteindre ces planètes-là. Mais je trouve que c'est absolument merveilleux et que oui, c'est une époque merveilleuse pour être un auteur de science-fiction en ce moment.
Alors j'ai posé la même question à Jean-David Morvan. Est-ce que ça vous sert ces planètes? Est-ce que vous suivez l'actualité sur les découvertes?
En fait, ma première réponse serait l'inverse, ce serait de dire non, parce que nous, ça fait longtemps qu'on sait qu'il y a des planètes, en plus qu'on sait qu'il y a des gens qui y habitent, puisqu'on fait de la science-fiction et qu'on lit des romans de science-fiction où il y a des planètes autour des soleils, il y a des gens qui y habitent, donc on n'avait finalement pas vraiment besoin de la science pour le savoir, ce qui est quand même un avantage. Maintenant, c'est quand même vachement intéressant, mais c'est pas une surprise pour nous, en tout cas. En fait, c'est une surprise que pour les gens qui ont besoin de preuves. Voilà. Et nous, on n'a pas vraiment besoin de preuves. Donc, c'est tout.
Oui, on peut dire quand même que... D'abord, il y a deux choses à dire. La première, c'est que dans les théories de formation des planètes, il y avait par exemple, alors ça fait longtemps que c'est démodé, mais l'idée qu'il fallait qu'une étoile rase une autre étoile, quelque chose d'extrêmement peu probable pour arracher un peu de matière et former les planètes. Et ça aurait été extrêmement rare. Donc, il y a toujours un doute, on ne sait pas. Donc à ce moment-là, les planètes auraient été très rares, et puis il n'y aurait que des étoiles. Ce n'est pas le cas. L'autre truc à dire, c'est que les découvertes nous montrent des systèmes planétaires qui sont très différents de ce que l'on voit dans le système solaire. Et donc, j'aurais envie de dire, bah, regardez, les cas les plus communs sont peut-être pas du tout comme la Terre. Alors, la plupart des cas ont été envisagés par les auteurs de science-fiction, mais je vais vous dire ce qui est le plus commun, a priori, ailleurs. Les étoiles, comme le Soleil, les étoiles alors, qui sont de la masse du Soleil, elles sont blanches, ok ? On les appelle les étoiles G, dans le jargon. Et ce qui fait que pour être dans une zone où il y a de l'eau liquide, où la vie est agréable, il faut être à une certaine distance, 150 millions de kilomètres. Mais si vous regardez autour de nous, dans la galaxie, dans le voisinage, la plupart des étoiles sont beaucoup plus petites. La grande, grande majorité sont beaucoup plus petites. Ce sont des petites étoiles rouges, des naines rouges. Et ces naines rouges, pour être à la bonne distance, pour avoir des océans comme sur Terre, il faut être un peu plus près, même beaucoup plus près. Donc dans ce cas-là, d'abord vous avez un gros soleil rouge, mais surtout il se passe un truc que vous avez déjà vu dans la science-fiction, mais que maintenant on réalise, c'est que à cause du fait qu'on doit être plus près, les forces de marée gravitationnelle, alors vous allez me dire c'est quoi ? Bah oui, c'est les forces qui font bouger l'océan, etc., ralentissent leur rotation et font exactement le même effet que la Terre a eu sur la Lune, c'est-à-dire que la Lune vous présente toujours la même face au soleil, à la Terre, que je raconte. Et donc ça fait la même chose. Donc à ce moment-là, on se retrouve dans le cas des planètes où vous avez toujours la même face qui est présentée côté, du côté du Soleil, et puis il y a un côté nuit permanent. Alors si vous regardez la science-fiction, c'est un cas moi je me souviens, je lisais Yoko Tsuno quand j'étais petit, je crois qu'il y a une planète là, comment elle s'appelait déjà ? Je ne sais plus. Vinéa. Et je crois qu'il y a eu un Vinéa à un moment donné se retrouve comme ça, etc. Ou dans Fondation, il y a ça aussi. Bon, ça c'est un cas, et ça doit être le cas le plus abondant, bien plus courant que la Terre classique, etc. Un autre cas qui doit être très abondant, et ça avait été une révolution quand on a commencé à découvrir les planètes. En fait, on pensait que tout le système solaire, la théorie nous montrait, encore une fois, nous montrait que les planètes géantes, les grosses planètes, vous savez, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, elles étaient géantes parce qu'elles se formaient loin des soleils. Là où il faisait froid, il y a plein de glace, plein de gaz. Ça faisait des grosses planètes. Puis nous, on était plus près. On formait des planètes rocheuses. Et tout était simple. Et donc, normalement, toutes les planètes habitables devaient être des planètes rocheuses. Et en fait, on a découvert que dans la plupart des cas, non. Les planètes géantes, effectivement, se forment loin de leur étoile. Mais après, pour des raisons un peu compliquées, elles se mettent à migrer au moment de la formation. Et elles se rapprochent des étoiles. Très souvent, on voit des planètes géantes, on appelle des Jupiter chauds, qui sont juste à côté de l'étoile, plus près de Mercure, plus près que Mercure. Mais surtout, on voit aussi très souvent des planètes géantes qui sont dans cette fameuse zone habitable, là où il y a de l'eau liquide, où c'est confortable. Ça veut dire qu'un cas très courant, alors les planètes géantes, c'est pas confortable pour le coup, il y a des gros nuages, il n'y a pas de surface, c'est la grosse densité, grosse gravitation. Mais par contre, vous avez, autour de toutes les planètes géantes dans le système solaire, vous avez plein de satellites. Et donc un cas aussi qui doit être très très classique, c'est les satellites de planètes géantes habitables. Alors ça c'est un cas classique, par exemple James Cameron pour Avatar a imaginé que sa planète serait dans ce cas-là. Et c'est pas par hasard, James Cameron, moi je l'ai déjà rencontré parce que c'est un fan de science, très actif sur Mars, très actif, et il suit de manière très proche, donc c'est un exemple un peu de ce que vous disiez. Lui suit de très très près et s'inspire de une espèce de réalité au fur et à mesure qu'on découvre des choses.
Il s'inspire vraiment de beaucoup de choses.
Ouais. Il est actif. Hein.
Il aime bien s'inspirer des trucs.
Ouais. Ok. Bon, en tout cas, en science, nous, on se plaint pas. Donc voilà, il y a plein d'autres. Et je pourrais continuer en fait. Plein d'exemples qui, à mon avis, pourraient peut-être inspirer, en tout cas, ne serait-ce que de dire que le cas le plus classique, c'est pas la Terre petite, c'est d'autres cas très différents. Ça peut peut-être inspirer. Voilà.
Alors, Philippe Bucher, dans un autre genre, pas pour imaginer les planètes, mais pour les dessiner, quand on dessine un système solaire, quand on fait... Est-ce qu'on se sert de ce que c'est la science ? Ou est-ce qu'on laisse son imagination ?
Forcément, moi, c'est souvent calqué sur notre système solaire qu'on connaît le mieux, finalement. Mais je rentre jamais trop dans le détail, finalement, de ce genre de choses, parce que c'est... C'est l'environnement qui m'intéresse, c'est les personnes qui y vivent. Je fais pas une science-fiction qui soit assez précise en science et en technologie, puisque finalement, ce qui nous intéresse, au moins dans la série Sillage, c'est les personnages. C'est plutôt la société, la façon dont les gens vivent. Mais ce que je voulais dire, c'est ce qui est intéressant, c'est que les auteurs de science-fiction dans tous les domaines, c'est des défricheurs aussi. Donc la science les rejoigne à un moment et qu'eux extrapolent, c'est leur métier. Et donc c'est toujours plaisant de voir que la science, finalement, elle découvre, elle valide l'imaginaire. Et ça c'est la chose la plus plaisante, je trouve.
Bah, c'était dur pour la science au départ d'accepter que la Terre était ronde, par exemple. Donc au fur et à mesure, la science évolue un petit peu au fur et à mesure.
Ouais, mais c'est pas les auteurs science-fiction qui ont inventé que la Terre était ronde.
Ouais, non, c'était aussi un scientifique, cela dit, c'était intéressant. Non, mais cela dit, c'est vachement intéressant.
Bah, la grande différence. Moi, je suis là, je suis fan de science-fiction. Mais réfléchissez bien, moi je travaille beaucoup sur Mars. On envoie des robots, on les pilote. Alors les histoires de martiens, c'est formidable, moi j'adore. Mais notre robot, vous avez peut-être vu les trucs, il est vraiment là-bas. Il est vraiment là-bas. On a vraiment construit, on l'a vraiment envoyé. Alors vous voyez à la télé, on voit à peine la différence entre des images science-fiction, vous allez avoir des astronautes qui se baladent sur une planète, et puis votre robot. Mais quand on le vit, quand on le fait au quotidien, c'est une réalité, c'est un vrai monde, ça existe vraiment. Et quand je vous parle de ces planètes-là donc, qu'on découvre, elles sont réellement là. Et donc, j'espère que ce n'est pas seulement être rationnel et dire c'est là, etc. C'est aussi, je crois, une forme d'émotion. De dire que c'est une réalité. Ce monde, ces planètes que l'on voit, on les identifie. Des fois, on est maintenant, commence à voir des... Alors pour nous, ce qui est bien pour nous, d'ailleurs, des spectres, donc pouvoir regarder ce qui s'y passe. Et c'est une réalité. Et pour moi, je crois qu'il y a une vraie part d'émotion dans le fait que c'est quelque chose qui est réel, aussi réel que l'océan ou de la neige. Et voilà, je pense que ça fait une différence. Et j'espère que ça ne peut que créer des histoires vraies ou pas vraies, mais susciter des émotions et des bonnes histoires.
On en parlait hier, et je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est important dans ce truc-là pour les auteurs de science-fiction, c'est que ça ramène aussi des nouveaux lecteurs à la science-fiction, parce que en fait, les gens commencent à se dire que c'est possible, etc. Donc, je pense que ça crée aussi une émulation chez les lecteurs de découvrir des nouvelles choses. Donc, finalement, c'est bien pour nous.
Et l'inverse est encore plus vrai. Le fait de faire des choses qui ressemblent de plus en plus à la science-fiction, un gros robot qui se déplace sur la surface de Mars, ça ramène plein de fans de science-fiction.
Alors, donc là, nous avons parlé donc de planètes, de réalisme et tout ça, et je vais poser la question un petit peu plus précise à Robert Charles Wilson. Est-ce que le réalisme, c'est important lorsqu'on écrit un livre de science-fiction ? Je parle pour les planètes.
Well, it's clearly not important to every science fiction writer. It is to me. I think of science fiction as speculation constrained by the possible, by what we know to be possible. And you know, every art form has its limitations. Every art form is defined by its limitations. And what I like about hard science fiction is that it has to live within the constraints of science. And I think that's why I see these recent discoveries as being a gift to science fiction. It gives us a more concrete basis for our imagination to work on. When I read science fiction, one of the things I want to do is imaginatively inhabit places where I can never really be. And it's more interesting to know these places as they exist in more detail. I think that lends a kind of strength and verisimilitude, a sort of spine to what would otherwise simply be fantasy. So these discoveries about planets have been important to me, even though I haven't and probably never going to write a story based on any of the particular planets, exoplanets that have been discovered in recent years, I'll probably never write a story that relies on that information. But everything I write will have this floating in the background. It'll be in the back of my consciousness, and I think it strengthens the fiction. It makes us something more than simply self-indulgent fantasy.
Alors, évidemment, cet aspect n'est pas important pour tous les auteurs de science-fiction. Pour moi, en tout cas, clairement, oui, ça l'est. Particulièrement parce que j'aime travailler, et pour moi, la science-fiction doit, la mienne en tout cas, s'accommoder spécifiquement des contraintes de ce que nous savons. Nous savons qu'il y a certaines choses qui sont possibles, d'autres qui ne le sont pas. Et pour moi, ma science-fiction doit s'accommoder de ces contraintes-là. Chaque forme artistique a ses limites, a ses bornes, et pour moi, ce sont celles-ci. C'est pour ça que j'aime tellement la hard science, c'est que j'aime pouvoir écrire un livre qui doit fonctionner selon les contraintes scientifiques admises et connues. Et c'est pour ça que je considère que toutes ces découvertes récentes sont un véritable don pour la science-fiction, parce que ça nous donne une énorme fondation sur laquelle construire notre science-fiction. Et en tout cas, c'est les choses que j'aime faire, c'est imaginer ces endroits où je ne pourrais jamais me rendre et pouvoir essayer de les décrire, en tout cas d'une façon qui va être la plus proche de ce que nous en savons. Et je trouve que c'est une force, c'est même carrément une épine dorsale de ce qui fait cette science-fiction. Sinon, ça serait tout simplement de la fantaisie. Ou du moins du fantasme. Et alors, même si je pense pas que j'écrirai jamais une histoire fondée très précisément sur une des planètes qui viennent d'être découvertes, ça plane quand même dans mon esprit et dans ma conscience, et c'est toujours là quand j'écris. Et je pense que ça renforce cette fiction, ou alors, tout simplement, je pense que j'écrirai juste une fantaisie sur laquelle je m'écouterai principalement écrire.
Alors, l'espace dans lequel nous arrivons à voir ces planètes, enfin les voir, à les identifier, on va dire, est quand même limité. On ne voit pas si loin que ça. Donc, je ne pense pas qu'on voit des milliards d'années-lumière, alors que les auteurs de science-fiction ont été beaucoup plus loin. Tout le monde n'a pas fait comme Ben Bova à décrire des choses précises sur sur un système solaire. Jusqu'où voit-on ?
Alors, il faut voir les échelles. Donc, nous, alors, on est de ce système solaire. J'utilise souvent une image qui est classique, mais qui est marrante. C'est, imaginez, si on prend le Soleil, qui fait la taille d'un homme, 1m80. Bon, la Terre, ce sera un grain de raisin à 200 mètres. Jupiter, une balle de handball à 1 km. Et alors, si vous voulez vous dire, bon, où est l'étoile la plus proche ? Proxima du Centaure, dans le système d'alpha du Centaure. On vient de découvrir une étoile juste à côté. Elle sera à quelle distance, à votre avis ? Elle sera à... Il faudra faire plus du tour de la Terre. Elle est à plus de 50 000 km. Et ça, pour le coup, je peux faire le chercheur rabat-joie. Pour l'instant, ça nous pose vraiment un problème quand on a envie de faire de la science-fiction, on a envie de voyager, parce que ça, actuellement, la physique actuelle... Rien nous permet d'imaginer des voyages interplanétaires comme dans les films d'Alain Romain. Alors les planètes, tout ça, super, mais les voyages interstellaires, ça marche pas du tout. C'est-à-dire que là, typiquement, quand on envoie une sonde très très rapide, là on en a une sur laquelle je travaille qui va vers Pluton, qui s'appelle New Horizons, on a envoyé avec la plus grosse fusée, elle va très vite. Bon, il faut un an pour aller à Jupiter, il faudra 100 000 ans pour aller à Proxima du Centaure. Alors ça, c'est l'étoile la plus proche, 4 années-lumière. Et puis on commence à découvrir, effectivement, vous avez raison, les étoiles qu'on découvre actuellement, elles sont dans le voisinage, à 5, 10, 20. C'est bien parce qu'après, on sait qu'on les découvre, et après, on pourra les étudier quand on aura des plus gros télescopes, on pourra voir quelle est l'atmosphère, on pourra même voir peut-être si l'atmosphère a été perturbée par une forme de vie, etc. Et puis, on est avec d'autres systèmes, alors pour les ultra spécialistes qui sont dans la salle, avec le télescope Kepler qui est dédié à la détection, on observe un champ d'étoiles spécifique, on l'observe comme ça, on le scrute pendant des mois et des mois. Et on regarde si de temps en temps il y a des transits, vous savez, les petites ombres qui passent devant l'étoile. Alors ça, c'est environ 800 années-lumière. C'est tout proche. Et puis, si vous voulez maintenant aller à la galaxie, notre galaxie, c'est donc, après ça, c'est, je ne vais pas dire de bêtises, elle doit faire à peu près 40 000 années-lumière de diamètre. Donc le centre de la galaxie a 40 000 années-lumière. Et la galaxie, c'est tout petit. À l'échelle de l'univers, c'est minuscule. Donc on observe juste effectivement les étoiles du voisinage, mais il y en a déjà pas mal, hein. Des centaines qu'on pourra vraiment bien observer. La galaxie, c'est 200-400 milliards d'étoiles. Et des galaxies, il y en a à peu près autant, 400 milliards. Donc c'est à peu près, c'est énormissime. Et c'est vrai que quand on réfléchit, nous, à cette histoire de détecter, observer les planètes, détecter les autres étoiles, pour l'instant, il y a une espèce d'habitude toujours de réfléchir à l'échelle de la galaxie. On a l'impression que c'est la galaxie qu'on peut observer. Ailleurs, on en voit plein, des galaxies partout. Je vous invite un jour à regarder ce qu'on appelle le Hubble Deep Field ou des choses comme ça. C'est, on scrute un endroit très noir du ciel où il n'y a pas d'étoiles. Et on fait une pause très longue. Et au bout des heures et des heures de pause, comme un appareil photo mais avec un super télescope, qu'est-ce qu'on voit apparaître ? Des centaines de galaxies partout. Il y en a plein, il faut l'imaginer. Mais ça, c'est loin. Et c'est vrai que... voilà. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais en tout cas, les échelles, c'est ça. On observe le voisinage. On s'intéresse à toute la galaxie, puis on sait qu'il y a plein d'autres galaxies partout. Et alors, c'est vertigineux, c'est impossible à concevoir, mais les faits sont les faits, c'est ça.
C'est splendide, super, merci pour cette réponse. La question était en fait sur à quelle distance voit-on les planètes actuellement ?
typiquement, alors ça dépend des méthodes, je ne vais pas être trop technique. Avec les méthodes où on regarde le petit mouvement comme ça, on observe ça très bien jusqu'à peu près 1000 années-lumière, à peu près. Et avec les autres méthodes de transit, etc., c'est à peu près le même ordre de grandeur, pour être honnête. Mais celle qu'on observe vraiment bien facilement, si vous voulez, pour détecter les ptères, eh bien, il faut regarder un peu plus près. Ça fait qu'on peut observer dans cette bulle qui fait entre 10, 100, voire 1000 années-lumière, vous avez quand même des milliers d'étoiles. Et c'est à partir de ça, quand je vous ai dit tout à l'heure qu'on pense que toutes les étoiles ont peut-être des planètes, ça veut dire qu'il y a des centaines de milliards d'étoiles du type terrestre, alors peut-être pas à exactement la bonne distance avec de l'eau liquide et tout, mais autour des autres, dans notre galaxie, et donc des millions de milliards d'étoiles, de planètes ailleurs. C'est quand on extrapole. On se dit, ça doit être pareil ailleurs, et puis on imagine, voilà. Pour l'instant, on regarde le voisinage, mais même ce voisinage proche, pour conclure, le rabat-joie chercheur, même la plus proche, on vient d'en découvrir une, donc, autour de Alpha du Centaure, système double, donc c'est un truc rigolo quand même, vous avez une étoile double, et puis une petite étoile qui tourne juste autour, on vient de la découvrir il y a quelques semaines, bien même celle-là, il faut des centaines de milliers d'années pour y aller avec la meilleure fusée actuelle. Alors peut-être qu'on améliorera ça, même techniquement, il y a quand même des problèmes pour s'accélérer à la vitesse proche de la lumière, même la moitié. On n'a pas, physiquement, on ne sait pas comment faire. Peut-être qu'un jour, on saura, hein, mais la physique actuelle nous dit que ce n'est pas possible. Voilà.
Mais la physique juste avant disait qu'il n'y avait pas d'autres planètes, donc finalement...
Non, la physique juste avant disait qu'on ne savait pas. C'est très différent.
Oui. Ouais, là, pour la science, si on ne sait pas, ça n'existe pas.
Là, la physique actuelle nous dit que c'est physiquement presque on n'a pas du tout l'idée de comment... C'est un peu comme le voyage dans le temps. C'est super le voyage dans le temps. Mais la physique actuelle nous dit, le vrai voyage dans le temps, comme on en rêve tous, on n'a pas la moindre idée de comment c'est possible le temps tel qu'on le comprend, etc. Et alors pareil pour le voyage interstellaire. Ok, on peut quand même imaginer, le truc qui marcherait bien pour être réaliste, c'est les vaisseaux... ce seraient les vaisseaux univers, les vaisseaux planètes. Un énorme truc qui tourne, là, Rama pour les spécialistes. On l'envoie, on habite dedans, on vit des milliers d'années, les générations se suivent. Là, ok, on arrive aux autres étoiles. Mais le truc, à fond les manettes, voilà, Star Wars, on ne sait pas faire, on ne comprend pas. Et même, il y a même des raisons physiques fondamentales, quantité d'énergie qu'il faut, qui font que ça coince, quoi. Ça coince, je pourrais vous l'expliquer plus en détail, mais ça c'est dommage, parce que moi j'aimerais bien qu'on puisse, ça marche.
Ça marchera.
Super.
Moi je voudrais juste dire une chose, c'est que ça nous laisse quand même un sacré terrain de jeu, quand même, tout ça. Au niveau de l'imagination, là on a encore de la place. Bon, effectivement, on aura peut-être du mal à y aller, mais les écrivains de science-fiction ont inventé l'hyperespace pour ça. Hein. On replie l'espace, on va directement là où on veut aller. C'est un espèce d'abracadabra extraordinaire pour aller voir un petit peu ce qu'on peut imaginer ailleurs. Et moi, mes planètes me servent de prétexte, par exemple. C'est-à-dire que la première que j'ai créée, c'est une planète poubelle, la décharge d'une confédération planétaire. Donc, c'était pas très drôle à faire, mais je l'ai d'une certaine façon ancré dans une réalité astronomique, parce que j'ai un ami astronome qui m'avait montré au télescope l'étoile Albireo dans la constellation du Cygne. Je l'ai trouvé superbe, cette étoile double aussi, bleue et orange. Et puis, je lui ai dit, est-ce qu'il peut y avoir une planète autour de ces deux étoiles ? Alors, comme c'est sa spécialité, il y a des gens qui travaillent sur des choses aussi pointues. Lui, il calcule des orbites stables autour des étoiles doubles. Donc, il s'est amusé, ça l'a amusé. Ça, moi, c'est le genre de choses qui me semble assez fou de s'amuser à faire des calculs à ce point-là, mais ça l'a amusé. Il m'a fait le calcul et il a trouvé une orbite stable autour de cette étoile double. Et il m'a dit, oui, il pourrait y avoir une planète autour de cette étoile double. Et il m'a dit, mais tu sais, elle est loin, elle est à 400 années-lumière, pour aller poser les poubelles, c'est quand même un peu loin. Et j'ai dit, c'est pas grave, on passera par l'hyperespace. Et finalement, mes jeunes lecteurs, quand ils lisent Les Oubliés de Vulcain, ils se posent pas trop le problème du voyage. Je dis que le voyage dure un certain temps, enfin, il faut que ça soit décent quand même. Ils voyagent pendant une semaine tout de même. Hein. Après, ce qui est intéressant, c'est que mon petit lecteur, je le propulse dans une planète qui est dépaysante, tout en étant quand même un référent à un problème qui est chez nous. Et c'est ça qui fait que la science-fiction a aussi un aspect pédagogique important, en fait. Ça fait rêver, comme je le disais tout à l'heure, mais ça peut aussi intensément faire réfléchir. Et bon, j'ai créé aussi une planète qui est entièrement maritime. Je ne sais pas si ça tiendrait vraiment le choc au niveau de la science, mais cette planète maritime me sert aussi de prétexte pour faire réfléchir mes petits lecteurs sur qu'est-ce qui pourrait se passer si on rencontrait une race intelligente semblable aux cétacés terriens et qui vivent dans les profondeurs d'un immense océan planétaire. Voilà, donc c'est un jeu. Il y a aussi un jeu intellectuel, mais l'accrocher à la science, c'est très important. Quand on s'adresse aux jeunes, on ne peut pas leur mentir d'une certaine façon. La science-fiction pour jeunes se doit d'être respectueuse du jeune lecteur en lui donnant des indications dans le texte comme quoi on va tricher un petit peu. Ça s'appelle le pacte de lecture, en fait. Il faut qu'il se rende compte dès le début qu'on n'essaie pas de l'abuser, qu'on n'essaie pas de lui faire croire des choses en lui faisant prendre des vessies pour des lanternes. De toute façon, les jeunes sont extrêmement pointilleux sur ce genre de choses. Ils sont très sensibles à ça. Et leur créer une nouvelle planète en leur montrant une planète forestière, comme j'ai pu le faire, une planète glaciaire. J'en ai fait plein, je me suis beaucoup amusée. Mais elles sont toutes monotaches, si j'ose dire. Il y a la planète glaciaire, la planète forestière, la planète maritime, la planète poubelle. Et d'un roman à l'autre, comme ça, quand on voyage à travers ces mondes imaginaires, on a à chaque fois un phénomène de réflexion sur quelque chose qui nous ramène à la nôtre.
En fait, c'est marrant, je me dis que la lecture, la littérature jeunesse, c'est finalement alors la seule chose au monde où on ment pas aux jeunes. C'est intéressant, parce que c'est pas mal, c'est une sorte de point de lumière dans la vie des gens. Ouais.
Alors, je voulais poser une question aux scientifiques et aux auteurs, mais en fait, on a déjà eu en partie une réponse qui était pas tout à fait celle que j'attendais, mais qui est bien. Si je me disais, les systèmes solaires, moi je les imaginais effectivement un peu comme le nôtre. Et je me disais, les auteurs, ils vont beaucoup plus loin. Je lisais la semaine dernière un texte qui parlait d'une planète double, donc deux planètes orbitant ensemble autour de deux soleils. Donc vous voyez, des gens qui vont quand même imaginer les choses. C'est des choses possibles?
Alors les planètes doubles, on en a un cas bien connu. La Terre et la Lune, planète double. C'est absolument une planète double. La Terre fait, la Lune fait un quart de la taille de la Terre. C'est vraiment un quart de planète double, donc ça marche. Et oui, il y a très nombreuses étoiles doubles, c'est-à-dire de systèmes où vous avez une étoile qui tourne autour de l'autre étoile. Donc là, vous avez plusieurs configurations. On a tout trouvé déjà. Vous avez une planète qui tourne autour d'une étoile avec une autre étoile qui tourne autour, très loin, à des très grandes distances. Au contraire, vous avez des systèmes d'étoiles doubles qui sont très très proches, qui tournent très très vite. Et à ce moment-là, vous pouvez avoir une planète qui tourne autour. Non seulement c'est un cas probablement assez courant, oui, on l'observe facilement. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les orbites sont stables. Par contre, je dois dire que c'est une énigme un peu scientifique parce qu'on ne comprend pas, dans les modèles existants, limités, de formation des planètes, ça cloche. Le système d'une étoile double comme ça, ça devrait pas marcher bien. Il devrait y avoir des dispersions par les forces gravitationnelles qui empêcheraient normalement la formation. Et pourtant, ça existe. Donc, les chercheurs qui s'occupent de ça, c'est quand même des découvertes récentes. Ils sont sur la planche de travail, plutôt sur le clavier de l'ordinateur, pour essayer de simuler et comprendre la physique qui a permis ça. C'est une énigme intéressante à résoudre. On a tout le temps des énigmes dans cette recherche.
Alors, on pourrait vous écouter parler pendant des heures, je pense qu'on apprend. Mais par contre, l'heure tourne et il nous reste en gros une dizaine de minutes. Donc, je propose au public de poser des questions. Si vous avez des questions à poser à notre chercheur, à nos auteurs.
Je voulais savoir, tout à l'heure vous avez cité Star Wars, puis là vous venez de parler des étoiles doubles et tout. Il y a une récente découverte sur une planète avec 3 ou 4 étoiles. Aujourd'hui on peut expliquer ça? C'est des choses qu'on a vues déjà dans la science-fiction avec Tatooine. Et comment aujourd'hui on peut l'expliquer un peu ce système de 4 étoiles ou 3 ou 4 étoiles
Alors effectivement c'est une découverte récente qui est assez amusante si vous creusez l'affaire parce que c'est une découverte qui a été faite par des amateurs. Parce que vous avez un télescope qui s'appelle Kepler qui observe, je vous ai dit, un champ d'étoiles et de temps en temps, c'est un télescope spatial, hein, de temps en temps on essaye de détecter, vous avez un... C'est un super appareil photo avec des millions de pixels. Puis sur chaque pixel, sur plein de pixels, vous avez des étoiles, 100 000 étoiles. Et on essaie de voir une petite ombre. On récupère ces données et on les analyse par ordinateur. Par ordinateur, on détecte les trucs réguliers, faciles, mais il y a énormément de données. Ce qu'ont fait les chercheurs qui s'occupent de ce projet, ils les ont mis en ligne et ils ont dit aux amateurs, regardez les données, et regardez les pixels et regardez si de temps en temps vous voyez un truc. Et des amateurs ont découvert la première planète... des passionnés, vous imaginez, les fous furieux, pire que tout le monde ici, qui vraiment vont regarder à la main et vont dire oh, et maintenant la personne a découvert une planète. Et la planète qu'ils ont découvert, elle est assez marrante. Effectivement, elle est autour d'un système quadruple. Vous avez je repense que j'étais deux étoiles doubles qui tournent autour, la planète qui tourne, et au loin, vraiment loin, hein, je ne vais pas dire de bêtises, mais vraiment beaucoup plus loin que l'échelle du système solaire, vous avez un deuxième système d'étoiles doubles qui tourne autour. Donc ça fait 4 étoiles. Alors si vous êtes sur la planète, vous allez voir vos deux planètes, vos deux soleils type Tatooine, hein, dans Star Wars, des jolis couchers de soleil, ils sont toujours à côté. C'est pour ça que parce qu'elles sont juste à côté comme ça. Et puis la nuit, quand tout est couché, il y aura deux grosses étoiles très brillantes, mais pas comme des soleils. Elles sont quand même assez loin, mais qui éclaireront bien quand même. Donc voilà. Et comment c'est possible Ça marche, ça existe. Comment une planète a pu se former? Je vous ai dit, c'est un peu une énigme dans ce système multiple. Normalement, c'est difficile à faire, mais on va trouver. Voilà.
Oui, bonjour. Moi, j'aurais deux questions à poser. En fait, la première, c'est vous avez parlé à un moment donné de forme de vie. Est-ce que ça devient sérieux de parler de... d'éventuelles formes de vie, voire même intelligentes, etc. L'équation de Drake, est-ce que c'est sérieux? Le projet SETI, etc. Et la deuxième question, un peu plus générale, comment, à propos de la science-fiction, comment on fait pour intéresser les gens qui s'intéressent? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la science-fiction, et comment on fait pour leur proposer de s'y intéresser? Voilà, merci.
Bon, je vais répondre brièvement à la première, puis après, à la limite, je vais laisser les autres participants répondre à la seconde. La première, oui, bien sûr, c'est sérieux. Il est évident que pour les chercheurs comme pour le grand public, savoir s'il y a des formes de vie ailleurs, c'est une motivation énorme et c'est une des motivations principales dans les plans que nous prévoyons pour observer et caractériser les planètes extrasolaires. Pour l'instant, on arrive juste à les détecter, très difficilement à les observer, voir ce qu'il y a dans l'atmosphère, etc. C'est ce qui est prévu. Et le premier objectif, c'est de comprendre si est-ce qu'il y en a, il y a de l'eau, est-ce qu'il y a ça. Et je ne vais pas aller trop loin, puisque je vous invite, je crois, il y a un autre...